heures. Et à la une ce matin, les enseignants qui n'en voulaient pas et pourtant le décret programme a été voté.
À 4h du matin, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé les mesures d'économie pour l'enseignement. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour le mouvement de colère des profs? Nous serons en direct d'une école à Mons pour voir s'il se poursuit. Une main tendue de Volodymyr Zelensky à Vladimir Poutine. Le président ukrainien a proposé à son homologue russe de se rencontrer. Ce n'est pas une première, mais c'est la première fois qu'il le fait sous forme de lettre ouverte. Un comité olympique, une fusion historique entre le comité olympique et le comité paralympique en Belgique. Une toute nouvelle structure voit le jour. Et puis les confessions d'une princesse, la princesse Astrid, qui nous parle dans un documentaire ce soir de sa mission notamment et de ses missions notamment économiques.
Et puis un mot de votre météo du jour avec Théo Le Chanu.
Une matinée nuageuse avec quelques éclaircies avant le retour des averses de pluie pour cet après-midi. Côté température, 7 à 13 degrés pour ce matin, pas plus de 15 à 19 degrés pour cet après-midi.
Estelle Falzonnet qui vous présente votre journal de 8 heures. Bonjour Estelle.
Bonjour François, bonjour à toutes et tous.
Sans grande surprise, le décret programme a donc été validé.
Après un marathon de 14 heures de débat, l'inévitable vote du décret programme est survenu donc à l'aube au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce paquet de mesures d'économie pour l'enseignement est au cœur d'une vive contestation des profs depuis plusieurs mois. Alors ce matin, le réveil est un peu difficile pour les enseignants. Nina Zanata, vous êtes à Mons, au collège Saint-Stanislas. Est-ce que les enseignants ont prévu de se mobiliser ce matin ?
Bah écoutez, pas de mobilisation ce matin. Les profs espéraient faire bouger les lignes, mais ce ne sera pas le cas au final. Le décret a été voté, hein, comme vous l'avez dit, et il va falloir continuer, donner cours aujourd'hui. Il faut bien pour les élèves, hein, disent les professeurs. J'ai à côté de moi le directeur du collège Saint-Stanislas, donc à Mons, avec le jeune. La grande question ce matin, justement, c'est comment vont réagir les professeurs ?
Oui, alors on ne sait pas encore, hein, j'ai pas encore eu l'occasion de prendre le pouls dans la salle des profs, mais c'est sûr que tout le monde va être un petit peu groggy et déçu. L'espoir était ténu, mais il était quand même là. Et là, les mesures qui ont été prises vont être délétères, humainement parlant, mais aussi pour la qualité de notre enseignement.
Et vous, en tant que directeur, comment vous allez réagir ?
Mais ce qui est important, c'est de garder la cohésion, c'est de rester à l'écoute de nos représentants syndicaux, mais aussi de tous nos professeurs. On va aujourd'hui organiser une assemblée générale pour à la fois montrer notre soutien, mais aussi de nouveau prendre le pouls et savoir quelles vont être la suite des événements.
Il y avait bien des profs, hein, ce matin dans la salle des professeurs, un peu déçus évidemment, normalement. Donc les cours reprennent ici à Saint-Stanislas, ça ferait une journée mouvementée hier puisque des examens ont dû être annulés.
Merci à Nina Zanata. Depuis Mons, à Namur, certaines écoles seront fermées aujourd'hui, selon la bourgmestre faisant fonction, par mesure de précaution, cette fois suite à des messages diffusés sur les réseaux sociaux annonçant la venue de groupes de casseurs en ville. Hier, des groupes extérieurs avaient déjà provoqué des incidents lors d'une manifestation d'étudiants donc à Namur. Et puis le vote, on le disait, il a eu lieu à 4h du matin, ce matin. Avant ça, la séance plénière a été marquée par de vifs échanges entre les parlementaires. Le climat était électrique jusqu'au bout, hein, Fiorine Michaud.
Oui, plusieurs interruptions de spectateurs et des échanges houleux ont animé ce marathon de débats. Diana Nikolic, députée MR, réappuyait la nécessité de la réforme durant la séance plénière.
Les enseignants sont des fonctionnaires rémunérés par les contribuables. Dans un contexte où tous les services publics font des efforts similaires, il n'est pas illégitime de demander que les dispositifs soient calibrés avec rigueur.
Des dispositifs votés donc majorité contre opposition, ou presque. Une voix s'est abstenue, celle de Mathilde Van Dorp, députée chez Les Engagés et ancienne professeure des écoles.
Je pense qu'il est clair qu'il faut prendre nos responsabilités par rapport à une situation budgétaire compliquée. Mais mon abstention, c'était aussi clairement signaler que la méthode ne fonctionnait pas, qu'il y avait un manque de concertation. Il était important pour moi de pouvoir continuer à porter ce message-là et à pouvoir m'abstenir.
À l'instar des échanges à l'intérieur du Parlement, l'extérieur était également sous tension. Pour rappel, des milliers d'enseignants et d'élèves ont afflué hier vers la capitale et ils ne risquent pas de s'arrêter là. Adrien Rosman, coordinateur communautaire au 7K pour le secteur enseignement libre.
Le réveil est un peu difficile, le vote a eu lieu cette nuit, mais nous l'avons annoncé, les assemblées générales d'enseignants et les arrêts de travail vont se poursuivre. On doit s'attendre à une fin d'année encore perturbée. Et donc on n'est pas du tout à la fin d'un combat. Je l'avais annoncé, on n'est pas devant une poussée de fièvre ni un mouvement d'humeur. On est devant un vrai malaise profond qui s'est installé depuis des mois et le gouvernement ne l'a pas entendu.
Et en parlant d'avenir, les enseignants et organisations ont également évoqué la Cour constitutionnelle comme dernier recours face à ce décret programme.
Merci Fioril, avec des interviews de Lionel Denebourg.
La première, il est 8h06, Volodymyr Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête avec Vladimir Poutine.
Dans une lettre ouverte envoyée à son homologue russe, Zelensky se dit même prêt à un cessez-le-feu complet, le temps de négocier pour mettre fin à la guerre. Isabelle Labéry, ce n'est pas la première fois que Volodymyr Zelensky propose une telle rencontre.
Mais jamais il ne l'avait fait dans ce format de lettre ouverte, à la fois très personnelle et offensive. « N'ayez pas peur de sortir de la guerre, de votre guerre », écrit le président ukrainien. Sa proposition est très concrète, rencontre dans un pays tiers, reste à choisir le jour et le lieu, cessez-le-feu pendant les négociations, implication des États-Unis et de l'Europe. Il s'agit aussi de reprendre la main sur le calendrier diplomatique au moment où Washington est accaparé par le Moyen-Orient, au moment aussi où la situation militaire est plutôt favorable pour Kiev. Le président ukrainien revient sur les récentes frappes conduites par son pays. Il évoque les pertes russes, la chute des ressources, le mécontentement de la population et termine par ces mots « Si vous n'en venez pas à l'idée qu'il est temps de terminer cette guerre », alors c'est pour assurer votre propre existence que vous devrez vous battre.
Isabelle Labéry, notre consoeur de Radio France à Kiev. C'est super, voilà la réaction de Donald Trump à l'annonce de cette proposition. Le président américain souligne que les deux pays devront faire des compromis après une multitude d'échecs de pourparlers.
Les États-Unis en pleine crise des assurances.
C'est notre enquête de ce vendredi. Humidité, orage, forte chaleur, la Californie est l'un des États américains les plus touchés par les conditions climatiques extrêmes. Ravagé, cet État de Californie, par des incendies géants assez régulièrement, à tel point que les compagnies d'assurance ne veulent plus prendre de risques. Il devient presque impossible de faire assurer sa maison en Californie. On voit ça avec Aviva Fried, notre correspondante aux États-Unis.
Le bruit des marteaux a envahi Altadena. Après les ravages de l'incendie de janvier 2025, la ville se reconstruit doucement. Claire Thompson et son mari Tim Swark, eux, n'ont pas perdu leur maison, en tout cas pas dans les flammes. Elle est pourtant inhabitable car contaminée par les cendres de matériaux toxiques qui ont brûlé aux alentours.
Chez nous, le taux de plomb mesuré dépasse plus de 800 fois la limite fixée par les autorités sanitaires. Nous avons trouvé du cyanure dans nos cloisons.
Du beryllium, du lithium.
Leur assurance refuse pourtant de reconnaître les risques liés à cette contamination et de payer pour un assainissement. Alors, le couple est engagé dans une bataille dont il ne voit pas la fin.
Je pensais avoir un filet de sécurité, il n'y en a pas. Quand vous êtes victime de catastrophes naturelles, vous êtes tout seul.
Les assureurs ne veulent pas prendre en charge une reconstruction devenue bien trop coûteuse en Californie. C'est le constat que fait Amy Back, fondatrice de l'association de consommateurs United Policyholders.
Les polices d'assurance ne sont plus adaptées au prix de la construction au mètre carré. Le secteur l'affirme haut et fort. Les changements climatiques sont un dossier brûlant et ce n'est pas nous qui y perdrons de l'argent.
Des changements climatiques qui, affirment les assurances, les pousseraient à la faillite. De nombreux contrats ne sont plus renouvelés dans les zones à risque. Une crise que la Californie va devoir rapidement gérer pour ne pas sombrer.
L'enquête à retrouver au complet dans le JT aujourd'hui et sur RTBF Actu. Erin Brockovich a un nouveau combat. La militante écologiste incarnée par Julia Roberts, souvenez-vous, dans le film de Steven Soderbergh sorti en 2000.
Pourquoi est-ce qu'on trouve des dossiers médicaux et des échantillons de sang dans un fichier immobilier? Ça vous ennuie pas si je creuse un peu la question?
Qu'est-ce qui vous fait croire que vous obtiendrez toutes les informations comme ça?
Les nichons, vous connaissez?
20 millions de dollars, c'est tout ce que
le film raconte le vrai combat de cette mère de famille pour dénoncer la pollution de l'eau potable dans une petite ville californienne et obtenir des réparations pour les victimes. Plus de 30 ans plus tard, Erin Brockovich, 65 ans, poursuit donc sa lutte. Et cette fois, Maxime Maillet, elle vise les géants de la tech comme Microsoft, Google ou OpenAI et leurs fameux data centers.
Ces énormes centres de stockage de données sont nécessaires pour le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Ils sont de plus en plus nombreux aux États-Unis, mais ils inquiètent aussi ceux et celles qui vivent à proximité. Erin Brockovich.
La taille de ces sites est incroyable. Les gens s'inquiètent pour leur terrain, pour la vie sauvage. Ils craignent qu'elle ne soit déplacée. Ceux qui vivent à côté des centres déjà opérationnels l'affirment, le bruit est assez fort pour vous rendre fou.
Parmi les autres problèmes, il y a l'utilisation de l'eau, la consommation de l'énergie ou les déchets électroniques. Alors pour faire entendre la voix de ces communautés locales, Erin Brockovich a décidé de créer un site internet et une carte. Les citoyens américains peuvent y signaler des problèmes, des inquiétudes liées à ces centres de données déjà opérationnels ou en construction. L'objectif, ce n'est pas de recenser tous les data centers américains. Il y en a plus de 4000 en activité, ni d'interdire l'intelligence artificielle, mais bien de donner la parole aux citoyens concernés, de les informer et de pousser les géants de la tech à collaborer avec ces communautés locales.
Ce que j'ai appris sur les communautés, c'est qu'elles acceptent toujours la vérité. Elles travailleront toujours avec vous, mais elles n'accepteront jamais un mensonge.
Le site d'Erin Brockovich a déjà reçu plus de 3600 signalements.
Maxime Maillet avec une interview de CNN. En sport, une fusion historique entre deux comités, le comité olympique et le comité paralympique belge. Les deux fusionnent pour former une nouvelle structure autour des athlètes de haut niveau, qu'ils soient valides ou moins valides. La Belgique est le sixième pays au monde à acter une telle fusion. Un moment historique, donc. Hélène Van Kamp, présidente actuelle du comité paralympique.
C'est historique parce que on a vraiment exprimé aujourd'hui que le paralympisme et l'olympisme, c'est comparable, c'est la même valeur, et ça je trouve vraiment, vraiment très important. Et on montre aussi au public belge que l'intégration, ouais, c'est vraiment possible. Si on veut, on peut. Les athlètes olympiques le montrent, mais certainement les athlètes paralympiques le montrent. Ils ont des soucis en plus dans leur vie, mais les choses qu'ils réalisent, c'est incroyable. Si on travaille ensemble, si on respecte l'un et l'autre, tout est possible.
Une interview de Gaëtan Van Kerkhove. Et à Roland-Garros, on connaît l'affiche de la finale féminine. Elle opposera la Polonaise Gwalinska et la Russe Andreeva samedi. Aujourd'hui, ce sont les demi-finales messieurs, avec le match entre le jeune prodige tchèque Jakub Mensik et l'Allemand Alexander Zverev. Et dans l'autre demi, duel 100% italien entre Matteo Arnaldi et Flavio Coboli. L'envers du décor de la vie de princesse, dans un documentaire exclusif diffusé ce soir dans l'émission Gotha. La princesse Astrid se confie notamment sur le rôle qu'elle a occupé pendant 13 ans lors des missions économiques. Un portrait signé Nicolas Delvaux, à qui on doit d'autres docus sur la famille royale. On découvre quelques extraits avec Daniel Welter.
Quitte à improviser quelques pas de danse, Astrid n'est pas du genre à faire les choses à moitié. 13 ans durant, la princesse a enchaîné les missions économiques. Au départ, il lui a pourtant fallu tout apprendre.
Au tout début, j'étais vraiment pas du tout préparée. Et je me vois encore dans une salle avec des personnes qui commencent à poser des questions. Et c'était un sujet très difficile. Et je me suis dit, et là ma fille, première et dernière fois, tu vas... C'était une motivation de plus pour faire la préparation en amont.
Même si elle est la sœur du roi, elle a dû s'imposer.
J'ai dû me faire accepter aussi en tant que femme, n'étant venant pas de ce monde-là. J'étais plutôt dans un monde humanitaire ou femme au foyer. Donc oui, c'était pas évident.
Dans le documentaire, Astrid évoque également des souvenirs plus personnels, une enfance compliquée avec des parents qui ne s'entendaient pas.
Et vraiment, la vie est vraiment une grande aventure, hein, vraiment.
Oui.
Avec parfois beaucoup de difficultés, mais on se relève.
Un portrait touchant d'une femme qui a toujours voulu être utile pour son pays.
Un documentaire à voir ce soir sur la Une en télé, sur OVIO, dans l'émission Gotha à 20h20. Voilà pour les infos.
Merci beaucoup Estelle Falzone pour ce journal de...